un podcast France Culture.
Mai 2022, l'éminent intellectuel américain Jeffrey Sachs alerte la communauté internationale. Il est urgent d'ouvrir une enquête indépendante pour enfin trouver l'origine de la Covid-19.
Mystérieuse pneumonie qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, considérant qu'il s'agit d'une menace sanitaire planétaire.
Et probablement une grippe très grave.
Un virus qui, jusqu'à présent, n'était absolument pas connu comme pouvant attaquer l'espèce humaine. Ça s'appelle le coronavirus.
En attendant cette enquête, nous vous proposons d'explorer les zones d'ombre qui persistent. Que sait-on précisément de son contexte d'émergence ? Et surtout, que sait-on avec certitude ne pas savoir ?
Mécanique des épidémies. Quatrième saison. La Covid.
Le médecin Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va vous guider dans cette enquête épidémiologique comme il l'a fait pour le choléra, le sida et la grippe. Avec lui, remontez le fil vers l'origine de la Covid-19, loin de toute tentation complotiste ou paranoïaque. Pour comprendre, à partir des faits et preuves dont on dispose aujourd'hui, quels indices, quels suspects, quels conflits d'intérêts, quels abus, quelles erreurs ont pu être commises. Mais pour cela, il est indispensable de remonter à la préhistoire de la Covid-19.
Il faut s'intéresser à l'origine du Covid parce que c'est ce qui nous arrive quand même. D'abord, par simple curiosité, on a vécu une période très compliquée pendant 2 ans. On aimerait bien savoir pourquoi. Et on aimerait bien que ça ne recommence pas. Donc si on ne sait pas ce qui a provoqué la pandémie, on aura du mal à éviter la suivante.
Premier épisode, le coronavirus avant la Covid-19.
Le coronavirus, c'est l'ensemble des virus où on va trouver les SARS-CoV. Les SARS-CoV, c'est les coronavirus, CoV c'est coronavirus, qui donnent le SARS. Le SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, donc le premier SARS de 2002-2003, et le SARS-CoV-2 qu'on a actuellement. Et Covid-19 est une maladie donnée par le coronavirus en 2019. Comment le coronavirus a pu presque immédiatement donner une épidémie d'une telle ampleur que la Chine a dû confiner la ville de Wuhan après seulement quelques semaines, après le début apparent de l'épidémie. Il y a aussi, on va le voir, des débats sur est-ce que certaines recherches méritent d'être faites compte tenu du risque d'avoir un virus pandémique qui s'échappe d'un laboratoire. Le coronavirus, c'est un virus, c'est très probablement l'agent d'une pandémie qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Bien sûr, on ne peut pas en apporter la preuve certaine parce que le virus n'a pas été isolé en 1890. On n'avait absolument pas cette capacité. On comprenait à peine que des microbes pouvaient donner des maladies. Et on en était encore à se poser des questions là-dessus. Mais plusieurs choses font penser que cette pandémie est liée à un coronavirus. D'abord, il existe maintenant chez l'homme un coronavirus qui s'appelle OC43. C'est son nom, OC43, qui, quand on essaye de retrouver les virus les plus proches, on va trouver un coronavirus chez les bovidés. Et quand on regarde le taux de mutation, la vitesse des mutations et combien de mutations séparent l'embranchement des rameaux actuels, on tombe à peu près sur 130 ans. 130 ans, c'est en gros 1890. C'est le premier argument. Le deuxième, il repose sur l'étude de cette épidémie. On est en 1890, c'est-à-dire que quand même les malades sont bien décrits. Et là, un certain nombre d'auteurs se disent, est-ce que c'est la grippe, est-ce que c'est pas la grippe? En tout cas, vont décrire des personnes qui ont des maux de tête, ont de la fièvre, des frissons, des signes respiratoires, mais aussi une perte du goût, une perte de l'odorat, et font plus souvent des problèmes cardiaques ou de vaisseaux qui se bouchent. Et puis, il y a des arguments épidémiologiques. Les médecins, à ce moment-là, sont étonnés de ne pas avoir de problème chez les enfants. Grosso modo, il n'y a pas de souci. C'est juste avec l'âge qu'on va avoir des formes graves. Alors que dans la grippe, il y a à la fois les jeunes enfants qui sont souvent malades et puis les personnes âgées. Les adultes sont généralement épargnés. Le coronavirus, c'est vraiment pratiquement rien chez l'enfant, pas grand-chose chez les adultes. Et plus on va vers un âge avancé, et plus on a des cas. Et même, ils notent que les risques sont beaucoup plus importants chez les hommes qui ont un certain surpoids que chez une personne trop maigre. Le poids était un argument extrêmement fort. Tout ça fait penser que, à la fois, c'est une date crédible pour le passage du virus du bétail à l'homme. On ajoute en plus que, à ce moment-là, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Et donc, le bétail faisait le voyage vers les villes. Donc, ils arrivaient vivants. Donc, les gens étaient plus exposés dans les abattoirs. Et tout ça concorde finalement avec la possibilité d'un, ce que les Anglais appellent un spillover, d'un franchissement de barrières d'espèces depuis le bétail jusqu'à l'homme. Cette pandémie a été appelée grippe russe, parce qu'on ne faisait pas la différence entre grippe et coronavirus. Elle a touché, par définition, puisque c'est une pandémie, l'ensemble de la planète. Commencé tout début 1889, 1890, elle a continué un petit peu pendant 2-3 ans, et puis ensuite, on n'en entend plus parler, si ce n'est que le virus OC43 est toujours présent comme un des virus du rhume banal. Le nombre de morts de cette pandémie, c'est à peu près une personne sur 1000. Donc on considère que ce sont des pandémies modérées comparées à la pandémie de 1918-1919 où les chiffres vont plutôt vers 5% de la population.
Les médecins spécialistes du monde entier sont mobilisés pour tenter de trouver une thérapie efficace face à la pneumonie virulente qui s'est déclarée en Asie. 9 personnes sont mortes ces derniers jours et partout des mesures de protection ont été prises pour éviter la propagation de l'épidémie.
Alors le SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, commence en décembre 2002, janvier 2003. 11 cas de pneumonie sévère. Pas tous reliés les uns aux autres, sans qu'on comprenne très très bien. Puis derrière ça, commençait à y avoir quelques petites épidémies, qu'on va dire nosocomiales, parce qu'elles surviennent en milieu hospitalier. Et survient un événement avec quelque chose dont on parle maintenant, c'est les super spreaders, les événements qui vont déclencher une aggravation dans une épidémie. Alors ça survient à Hong Kong, à l'hôtel Métropole. Donc dans un hôtel, il y avait une personne qui était malade, on l'appelait le super spreader. Et les gens qui ont fréquenté le même étage dans l'hôtel, qui ont pris l'ascenseur avec lui, etc., se sont contaminés, sauf que c'est un hôtel très chic, avec des voyageurs qui viennent de partout. Et le coronavirus, le SARS-CoV, on va dire un maintenant, va partir au Vietnam, va partir différents endroits, y compris jusqu'à Toronto au Canada. Et c'est là où on va avoir de nouvelles chaînes de contamination qui se mettent en place. Finalement, comme c'est une maladie qui est très symptomatique, la contagiosité d'ailleurs intervient alors que les gens sont déjà symptomatiques, les équipes de lutte contre les épidémies dans les différents pays finissent par arriver à contrôler la transmission. Et quelques mois après, il n'y a plus de cas de SARS-CoV. On a eu en tout à peu près 8000 cas et à peu près 800 décès. C'est donc une létalité bien plus forte que celle qu'on a eue avec le SARS-CoV-2. Mais par contre, comme il a moins diffusé, il a fait infiniment moins de dégâts. Quand je parle de maladie symptomatique, je veux dire que dans le SARS-CoV-2, à peu près la moitié des personnes n'ont pas de symptômes ou vont déjà être contaminants avant d'avoir les symptômes. Si bien que, en termes de propagation de la maladie, les gens ne se savent pas malades et contaminent leur entourage. Pour le premier SARS-CoV, les symptômes, qui sont les symptômes du SARS, ils sont tout à fait comparables, même s'il y a des nuances, ces symptômes-là interviennent tout de suite. On ne trouve pas d'asymptomatique, en tout cas ça n'a pas été mis en évidence. Il est facile de repérer les personnes malades et donc de les isoler. La différence vraiment est à ce niveau-là. Il y a une troisième maladie liée à des coronavirus, c'est le MERS-CoV, donc un coronavirus qui nous vient du Moyen-Orient et dont on sait maintenant que c'est d'abord une épidémie chez les dromadaires, et à partir de l'ensemble des virus qui circulent chez les dromadaires avec leur variété, sortent de temps en temps des virus qui vont contaminer l'homme. Donc on a des départs de contamination, mais ces virus très proches les uns des autres, cette population de virus, ne sont pas très adaptés à l'homme. Pour l'instant, ça s'arrête. Mais on a toujours la trouille qu'ils finissent par s'adapter et que lancer une vraie chaîne de contamination qui pourrait donner une pandémie. On en a d'autant plus peur que ce virus est encore plus mortel que le premier SARS, et donc beaucoup, beaucoup plus que le SARS-CoV, avec une mortalité de l'ordre de 30%. Jusqu'ici, on a eu à peu près 2500 cas, et là encore 800 décès. Ce qui fait trois modes de sortie différents de ce type d'infection. On a à supposer que ce soit donc l'épidémie de 1889-1890, soit une épidémie de coronavirus. On a un mode de sortie, effectivement, par le fait que le virus s'adapte, reste contagieux, continue à contaminer les gens, mais les personnes acquièrent une immunité. Et finalement, comme les coronavirus ne font pas beaucoup de dégâts chez les jeunes personnes, ils circulent, les personnes âgées sont immunisées, les personnes jeunes ne sont pas encore, mais acquièrent leur immunité, et on a finalement un virus de rhume qui ne nous pose pas de problème majeur. L'autre possibilité, celle du SARS-CoV numéro 1, où le virus est dangereux, mais on ne lui a pas laissé le temps de faire tout ce travail. On commençait déjà à se propager, mais on a arrêté la transmission avant qu'elle ne soit vraiment pandémique. Elle a touché un certain nombre de pays, mais que quelques personnes dans chacun de ces pays. Et l'autre modalité, finalement, c'est un virus qui s'est installé chez un hôte que l'on fréquente dans la péninsule arabique. Oui, on peut avoir des contacts avec les dromadaires, et c'est là qu'on a des cas sporadiques, mais sans chaîne de transmission importante chez l'homme. Donc on a vraiment les trois possibilités.
Après le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, en décembre 2019 émerge la COVID-19. Tous les regards se tournent désormais vers Wuhan, où on relève d'emblée des anomalies épidémiologiques.